ce nouveau numéro d'Aréopage, place à la Méditerranée, à son pourtour méditerranéen et notamment le sud de la Méditerranée. J'ai le plaisir et la joie de recevoir Monique Serrochaibi.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Monique. Alors on connaît vos goûts littéraires, Monique, maintenant. Vous nous proposez la littérature du sud, du nord de l'Afrique, avec une littérature orientale, une littérature qui nous fait rêver.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas vraiment un roman,
oui,
qui est plutôt un livre de souvenirs d'une membre de Coup de Soleil national, Sadia Barèche, qui a passé toute son enfance en Kabylie, qui a fait ses études là-bas et tout, qui est titulaire d'une maîtrise, d'un DESS.
Diplômée, donc.
Ultra diplômée. Et qui est venue déjà à Montpellier à un moment où on avait fait une soirée sur Tao Samrouche, qui est une kabyle fort connue, chanteuse et conteuse. Et donc elle était venue présenter son film sur cette exceptionnelle femme.
Artiste, ouais. Et donc, cette Sadia Barèche, cette dame que vous connaissez, vient de publier Les couplets subversifs.
Oui, alors ça n'a rien à voir avec Rushdie.
C'est ça.
C'est un livre où elle commence déjà par raconter un peu l'histoire de sa famille, donc de son grand-père, de son père, sa propre histoire, qui est liée bien sûr à celle des générations passées. Mais ça tourne surtout autour d'un cahier qu'elle a retrouvé dans le coffre familial. Un cahier marqué calligraphe et un cahier qui est rempli de l'écriture très raffinée de son père qui a retranscrit des couplets en kabyle, des couplets de versets qui passaient pour subversifs à l'époque. Il faut savoir que la Kabylie, déjà, bon, il faut la situer, il y a la grande et la petite Kabylie, donc elle vient de la grande Kabylie qui se trouve autour de la wilaya de Tizi Ouzou, elle est d'ailleurs de cette région-là. C'est une région très accidentée, très montagneuse, donc très froide l'hiver, très chaude l'été, sèche aussi. Une région où les villages sont souvent difficiles d'accès, donc où il faut vivre surtout dans la solidarité. Donc tout le monde, même les enfants, participent à la vie du village. Et son grand-père était un homme très généreux. Celui qui a réussi dans ces villages se doit d'aider ceux qui ont moins réussi.
L'entraide traditionnelle.
Depuis l'enfance, elle vit dans cette notion d'entraide, dans la notion de tradition à respecter, bon, puisqu'on sait que la langue kabyle est une langue qui au départ n'était pas une langue écrite. Donc il y a une longue tradition orale. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, c'est par son père, son grand-père et son père qu'elle a appris l'histoire Moi, je vais passer pour savante, mais en fait, ça fait 2-3 jours que je sais. Hein. Alors,
c'est vrai que vous êtes plutôt quelqu'un attiré par la littérature romanesque. Et là, on est dans un autre sujet,
totalement.
Finalement.
Bon, on est dans un sujet religieux, mais une religion un peu particulière, puisque...
Oui.
Dans cette partie de la Kabylie, l'islam est un islam plutôt de tradition soufie. Donc avec justement des versets, ce sont soit des 6-1, soit des 9-1, qui sont psalmodiés, avec souvent le nom de Dieu qui revient régulièrement. Mais on parle aussi, on évoque aussi la colonisation dans les versets qui ont été recueillis.
C'est pas complètement... hors sol.
Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que ce cahier a une histoire particulière. En fait, ça tourne autour d'un coffre-fort où le père de Sadia avait mis son cahier. Et elle, comme c'était une enfant qui était très rebelle à la sieste, au lieu de faire la sieste, elle était dans la chambre de son père, elle lisait, et elle était chargée d'ouvrir et de fermer la porte aux gens qui entraient et qui sortaient pour ne pas empêcher la sieste des autres, puisque le père tenait un restaurant hérité du grand-père, et il fallait que les pains de glace soient livrés à la maison. Donc elle devait ouvrir et fermer la porte pour pas que ça fasse du bruit. Et donc, elle avait le privilège de rester dans la chambre de son père. Mmh. Ce qui fait que quand il ouvrait le coffre, elle s'était aperçue qu'il y avait un petit cahier bleu qui était là au-dessus.
Et étrangement, bien loin, presque caché, ça voilà. Attire.
Et
ça.
Pendant la colonisation, ce cahier, il était très important qu'il soit justement caché, puisque si les colons l'avaient trouvé, ça aurait pu être dangereux. Mmh. D'ailleurs, ils sont venus avec l'intention d'ouvrir le coffre, mais comme d'autres soldats étaient venus et qui avaient donné des coups de crosse sur ce coffre-fort, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Mmh. Donc finalement, elle a hérité de ce coffre bien après l'indépendance et elle a retrouvé ce petit cahier. Et elle a tenu à écrire ce livre pour prolonger la tradition. Ouais. Une tradition qui n'empêchait pas la modernité, hein, puisque son père et son grand-père parlaient plusieurs langues. Bon, le grand-père, il parlait parfaitement le français, mais sans l'écrire. Enfant, elle parlait le kabyle à la maison, l'arabe à l'école, le français à l'école et l'arabe dans la zaouïa. C'est-à-dire, la zaouïa, c'est une sorte de mosquée, c'est l'endroit où on prie. Donc, c'était des gens qui étaient assez ouverts, bien qu'ils soient dans des lieux, et puis des lieux un peu retirés et tout.
Ouais.
Donc, on sent dans ce livre que Sadia a une adoration pour son grand-père comme pour son père, puisqu'ils lui ont donné justement des valeurs très, très généreuses, très, très ouvertes sur le monde en entier. Et donc... tout le début du livre, c'est l'histoire de son grand-père qui a fait la guerre de 70, puis celle de 14-18, son père qui est revenu blessé de la guerre de 39-45. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il était blessé, qu'il était retenu chez lui, qu'il a commencé à écrire
Donc
sur
c'est un
ce
livre
cahier.
Vraiment en hommage à cet homme qui a engagé, qui a une histoire avec la colonisation et dont elle veut en même temps transmettre cette spiritualité.
Complètement, oui. C'est une... Alors, la tradition de ce... Attendez, excusez-moi. Je voudrais le prononcer correctement. De la Ramania. La Ramania, c'est donc cette confrérie... Enfin, la Tariqa, c'est la confrérie, et la Ramania, c'est la forme religieuse que prennent ces versets. Et donc, cette tradition, elle veut effectivement en parler pour montrer l'ouverture d'esprit des gens de l'époque, et puis parce que c'est important que l'on sache que ça a existé. Alors, c'est né en 1774, pardon. Et ça a été très fort dans cette région de l'Algérie jusqu'à 1857. Donc, à cause de la colonisation, ça a pris un peu de recul. Mais bon, c'est resté quand même profond chez certaines personnes. Et donc, c'est important, effectivement, c'est une espèce de legs que Sadia se sent obligée de mettre en...
Ouais.
Voilà.
Ouais. Donc les couplets subversifs, et c'est un éditeur Casbah, c'est Casbah Édition qui
le
publie.
Casbah Édition, oui, c'est une maison d'édition algérienne qu'on a l'habitude de fréquenter.
Que vous connaissez, oui.
Avec Coup de Soleil, donc, qui est assez facile d'accès. Parce que le problème que nous avons, nous, avec les livres qui viennent du Maghreb, souvent, c'est que pour les lire, c'est assez compliqué puisqu'on a du mal à les faire passer en France. Donc, pour l'instant, on travaille là-dessus. Enfin,
partie de vos missions, de vos objectifs.
Il y a eu une AG récemment de Coup de Soleil à Paris. Et l'un des projets qu'on a, c'est de faire circuler ces livres par la valise diplomatique. Parce que ça coûte une fortune de faire circuler des livres d'une autre manière.
Oui.
Donc souvent, on est privé de livres très intéressants et qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas offrir au monde d'ici. Parce que c'est un problème juste
de passage de frontières.
De livres d'ici, tout à fait.
Ouais.
Donc on a, par exemple en Tunisie, on a Elizade, mais Elizade elle a un point en France, donc avec Elizade on n'a aucun problème, les livres circulent. Casbah, c'est une des maisons d'édition avec laquelle on peut aussi faire circuler les livres, mais il reste beaucoup de livres qu'on ne peut malheureusement pas mettre dans les mains du public d'ici, pour ces raisons bêtement matérielles.
C'est ça. Les couplets subversifs de Sadia Barèche que vous venez de présenter, Monique, et vous avez aussi un choix musical qui correspond à cette ambiance, à cet univers que propose Sadia Barèche.
Alors j'ai trouvé sur YouTube, pour pas le cacher, j'ai trouvé des psalmodies parce que ce que je voulais justement, c'était illustrer de manière sonore ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les couplets les couplets de l'Aramania doivent être scandés. Alors soit ce sont des textes courts qui demandent une seule personne pour les chanter, soit c'est un chœur complet qui peut chanter. Alors ça se chante soit au moment d'enterrement ou de fête traditionnelle, soit au moment où un des membres de la confrérie doit partir à la Mecque pour le pèlerinage.
Oui, c'est très cérémoniel.
Et donc ça se scande. Ça, par exemple, vous avez souvent le nom d'Allah qui revient de manière assez régulière, et c'est crescendo, c'est-à-dire ça commence relativement doucement et tout, et puis on entend un refrain qui martèle les esprits et tout, et ça peut arriver jusqu'à l'extase. J'avais voulu, mais j'ai pas trouvé, illustrer ça avec un moment du film de Youssef Chahine, Le Destin. Parce qu'à un moment, bon, mais là, c'est de manière beaucoup plus fondamentaliste, donc, mais on voit un jeune qui est pris dans la prière et dans le rythme au point d'être en transe. Donc ce sont des chants qui sont pas anodins, quoi. Quand on les chante, ils vont jusqu'au fond de l'âme. Quoi.
Voilà. Ils nous transportent. Merci Monique Serrochaibi pour votre premier choix, Sadia Barèche, les couplets subversifs. On écoute tout de suite votre choix musical en attendant d'accueillir Fauzia tout de suite après. À tout de suite.
Let's go!
aréopage méditerranéen, aréopage coup de soleil avec Monice Rochalbi qui nous a proposé le livre de Sadia
Barèche,
Sadia Barèche, Les couplets subversifs aux éditions Casbah. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant dans notre studio Fozia Zedam qui nous propose un autre choix littéraire.
Bonjour Guylaine, bonjour Monique.
Bonjour.
Bonjour aux auditeurs aussi. Eh bien oui, moi je vais vous parler du livre Nos rêves de pauvres de Nadir Dendoun. Voilà. Alors si j'ai...
Allez,
oui, j'y vais, je commence.
C'est votre espace.
Bon,
hein.
D'accord.
C'est votre espace.
Je te laisse.
Ouais, c'est ça.
Merci.
On va peut-être vous interrompre, mais pour l'instant,
oui,
commencez.
Non, mais j'ai pas eu le temps de le lire, de toute façon, je n'interviendrai pas.
Oui, alors je suis. Alors, c'est un livre, c'est le livre d'une famille algérienne. C'est une histoire autobiographique de Nadir Dendoun, qui est, lui, qui est journaliste. Il est né dans les années 70, donc en 1972, apparemment. Ses parents viennent de la petite Kabylie, de Béjaïe, très exactement.
Ah bah tiens, on fait les deux Kabylies.
Voilà, oui. C'est pour ça que je trouvais que c'était très intéressant ce parallèle entre Sadia Barèche et puis Nadir Dendoun. Pas effectivement avec le même fond, mais effectivement de l'origine. Et donc, c'est l'histoire de sa famille qui est partie d'un village de Béjaïe, qui est arrivée en France et qui s'est construit aussi en France. Donc voilà, c'est une histoire française, c'est la petite histoire dans la grande histoire, et c'est une histoire de France et une histoire française.
Donc il raconte l'histoire de ses ancêtres.
Il raconte l'histoire de sa famille,
Et
ça part effectivement au moment où son père est né en 1928. Il a vécu dans un petit village, il était berger. Et à cette époque-là, bon, c'était en plein dans la colonisation. Et à cette époque-là, il y avait effectivement des problèmes pour se nourrir, de travail. Donc son père a décidé en 1950 de partir en France, de venir en France, de s'installer là pour y travailler et pour pouvoir nourrir sa famille, ses parents et ses frères et sœurs en Algérie. Donc il est resté donc 2 ans sans repartir en Algérie, et en 52 il est reparti, et là il s'est marié avec Messaouda, donc la maman de Nadir, et donc il s'est marié, sa femme est restée, il a fait des enfants en Algérie parce que ils sont Nadir a 8 frères et sœurs, donc il a 1 frère et 7 sœurs, et donc la moitié sont nés en Algérie, donc dans ce village, et l'autre partie est née en France parce que ses parents sont arrivés en France. Le père de Nadir a fait venir sa famille fin des années 50, 58, 59 il me semble, et donc l'autre partie de la fratrie donc est née en France en Seine-Saint-Denis, très exactement.
Alors selon vous, Fozia, comment est-ce que Nadir Dendoun a reconstitué cette histoire ? Parce qu'il a retrouvé des correspondances, des archives ? Ou est-ce que c'est dans la mémoire orale qu'il a pu reconstituer cela ? Comment est-ce qu'il a pu arriver à écrire cette histoire que finalement il n'a pas connue ? Il était tout petit. On lui a raconté, ou est-ce qu'il a vraiment trouvé des textes, des archives, des personnes qui auraient pris des notes sur leur vie ?
Alors déjà, il l'a fait sous forme de chronique. Déjà, donc c'est pas un roman qui se suit effectivement. Donc c'est sous forme de chronique, et surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a raconté l'histoire de sa famille, de ses parents surtout en France, ce qu'ils ont vécu au sein de cette famille, comment lui il a évolué, comment lui il a grandi dans cette famille aimante.
Donc c'est à partir de son ressenti d'enfant.
Exactement. Oui. Et du coup sous forme de chronique, mais il y a un chapitre sur Rania, sa première sœur aînée qui est morte. Un autre chapitre sur son père, qu'il appelle le daron, parce que c'est vrai qu'on appelait effectivement cette époque-là le daron, la daronne pour la mère. Il parle de... à chaque fois, il a un chapitre effectivement sur Salah, qui l'a sauvé, un éducateur qui l'a sauvé effectivement... d'un moment donné où il s'est perdu dans sa jeunesse, entre la drogue, les vols, les allers-retours aussi dans la prison. Et ce qui l'a amené effectivement après à monter l'Everest, parce qu'il a fait partie d'une expédition. Et en 2008, effectivement, il a gravi l'Everest. C'est pas génial ça? C'est une vraie ascension sociale. Il en a tiré un livre, un documentaire, exactement, sur son parcours. Donc je trouve ça fabuleux. Et quelques années après, il a décidé d'être journaliste. Et donc voilà, c'est un peu ce... Et donc il écrit sur cette... sur ces enfants qui sont nés en France, issus de ces familles algériennes, parce que là on parle de la famille algérienne, mais ça aurait pu être une famille marocaine, une famille tunisienne, une famille africaine. C'est pour ça que c'est une histoire de France aussi, quoi. Et qui prend ses racines ici, mais qui vient, qui a des origines ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée, et qui essaye de se faire une place ici et d'être, d'être reconnue ici, chose qui est très difficile. Donc voilà, c'est ce parcours difficile avec... un passage par les bidonvilles, un passage par, des emplois précaires de son père, sa mère ne travaillant pas, un problème de langue, puisque ses parents ne parlaient que le kabyle, parlaient très peu français. Et donc c'est toute cette ce qu'on appelle intégration, mais qui est un mot qui est un petit peu ambigu pour moi et pour lui aussi. Tout d'ailleurs, j'ai bien senti.
Alors, mais quel est le ton de Nadir Dendoun pour raconter ça? Est-ce que c'est un ton amer, un ton nostalgique, un ton de regret, de... Est-ce qu'il va avoir des reproches ou est-ce qu'il va au contraire s'exalter pour cette découverte de la France? Comment est-ce qu'il appréhende ce passé?
C'est un temps de révolte, un temps de révolté. Révolté parce que ses parents, c'est un livre d'amour. Voilà, c'est un livre de pudeur, c'est un livre d'amour. Moi qui m'a terriblement touchée, je vous le dis, ça c'est sûr. Un livre d'amour pour ses parents. Un père qui, ne sachant ni lire ni écrire, mais qui a élevé sa famille, qui a mis sa famille à l'abri de tout. Une maman, pareil, qui était illettrée, mais qui a tout fait pour ses enfants. Amour pour ses sœurs qui l'ont aidé, puisque lui c'est le dernier de la fratrie. Amour pour Salah, l'éducateur qui lui a tendu une perche. Amour pour Lolo, un enfant de pieds noirs qui l'a rencontré dans la cité, et ils ont parcouru un petit chemin ensemble et ils ont vécu des tas de choses intéressantes. Amour pour toutes ces rencontres qu'il a fait, qui ont fait ce qu'il est maintenant. Voilà, c'est à la fois de la révolte parce que il se dit pourquoi tant de problèmes, tant de distance avec cette société qui a du mal à les accueillir, à les intégrer, à leur laisser cette place, parce que là il parle aussi d'ascenseur social, parce que c'est ça. C'est effectivement quand on a un prénom à consonance étrangère, il y a une sorte de stigmatisation, mais il est aussi dans on n'est pas des victimes. On est aussi, on a aussi cette capacité d'agir, de se révolter, de dire non, de prouver qu'on fait face aux choses et que c'est pas parce que on est né, on est issu d'une famille étrangère, mais qu'on est né en France, mais qu'on a ces possibilités de réussir et de s'en sortir dans la vie. Et ça, c'est très important. Un projet de vie. Et un projet plein d'espoir. Et c'est vraiment ce qu'il essaye de faire ressortir dans ce livre.
Alors, Monique, vous avez envie de lire ce livre?
Ah, mais bien sûr, j'ai envie de le lire, surtout qu'il en parle si bien.
Mais oui, bravo, Fosia.
Avec un tel enthousiasme. C'est ça peut-être la différence qu'il y a avec le livre de Sadia, qui est plus... Alors, tu parles d'amour. Oui, on sent qu'elle a aimé son père et son grand-père, mais c'est plus de la vénération, moi, que je vois. Que de ce côté, peut-être qu'elle est plus pudique et tout. Et puis en plus, elle n'a pas fait le même parcours. C'est quelqu'un qui a fait des études importantes. Et quand elle est venue en France, elle avait un bagage important. Elle n'a pas eu ce choc qu'a eu ton
Nadir Dendoun,
ton narrateur. Voilà. Ouais. Donc c'est à la fois deux racines similaires, mais avec deux parcours très, très distincts l'un de l'autre. Donc c'est intéressant, effectivement, de lire les deux.
Oui, parce que bon, il parle de l'exil, du coup, c'est des choses actuelles avec l'émigration. Donc ça, c'est très important. Cet amour et alors moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que pourquoi j'ai choisi ce livre-là, parce que je l'ai vu sur une étale d'une librairie et j'ai trouvé cette photo. C'est la photo qui m'a fait acheter ce livre-là. Ah oui, c'est une photo qui. Enfin, je le dis, c'est la photo de son père qui ferme les yeux, qui a le visage un petit peu incliné, qui remet sa cravate, qui est pleine d'émotions, pleine de tendresse. Et qui en dit long sur son parcours. Et moi, ça m'a énormément touchée.
Ça se sent, oui.
Et donc, et je vous dis ça parce que... Et à l'intérieur, il y a aussi une photo de sa maman, qui est un peu plus en retrait, mais qui est très, très belle aussi, dans leur... voilà. Et alors, cette photo, quand il est devenu célèbre, Nadir, il a été interviewé par un journaliste, et on lui a demandé de faire un reportage sur sa famille. Donc, le journaliste est venu, le photographe est venu chez lui. Il a pris en photo son père et sa mère. Et cette photo a été reproduite à travers le monde. Et donc quelle fierté pour cet homme qui maintenant malheureusement a perdu toute sa tête. Donc c'est un vrai message d'amour.
Voilà. Un grand merci Fozia pour cette présentation. Ah Monique, vous vouliez ajouter
Ajouter quelque chose, que c'est le moment peut-être de relire deux livres d'auteurs malheureusement disparus depuis longtemps. L'un de Mouloud Feraoun, l'autre de Mohamed Choukri, Le pain nu, et Le fils du pauvre, je vous recommande, mais alors de façon...
Au-delà de ces deux présentations d'aujourd'hui, au-delà des couplets subversifs de Sadia Barèche aux éditions Casbah, présentée par Monique Serrochaibi, et la présentation de Fozia, Nos rêves de pauvres, de Nadir Dendoun, qui est publiée aux éditions Pocket, avec en effet une très belle photo, une photo intérieure et une photo extérieure. Un grand merci à toutes les deux pour ces coups de soleil.
Merci à toi, Guylaine, et bonjour à tout le monde.
Et à très très bientôt.
À bientôt, Guylaine. Au revoir.